VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 30 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, la CENCO doit achever aujourd'hui son travail de bons offices au dialogue de la dernière chance entre majorité présidentielle et opposition.
La coalition des Congolais pour la transition s'interroge pour sa part sur le sort d'un de ses membres, David Illico.
Au Tchad, le premier ministre français Bernard Cazeneuve avertit que la guerre contre le terrorisme sera longue.
Le président Barack Obama a annoncé hier une série de mesures contre la Russie après son ingérence dans la présidentielle américaine du 8 novembre dernier.
En Syrie, un cessez-le-feu entre le régime et les rebelles était globalement respecté ce matin.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La coalition des Congolais pour la transition, qui exige le départ immédiat du président Joseph Kabila, alerte l'opinion sur la disparition d'un de ses membres depuis plus d'une semaine. David Illico, un étudiant de Kinshasa, a été emmené par des hommes armés, mais son lieu de détention reste un mystère et les autorités n'ont fourni aucune information le concernant. A dit à VOA Afrique le président de la CCT, Emery Damien Kalwira.
Depuis le 19 décembre dernier, David Illico, membre de la cellule de campagne Trop et Trop tournant la page de Kabila à Kinshasa, par ailleurs étudiant en G2 à l'ISP Gombe à Kinshasa, a été enlevé, pris en otage par les hommes en uniforme du régime fini de M. Kabila. Et jusqu'à présent, nous sommes sans nouvelles de lui. La CCT s'est adressée au Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme à la MONUSCO à Kinshasa. Nous n'avons pas la suite. La CCT s'est adressée à Human Rights Watch. Nous n'avons pas encore la suite. La CCT s'est adressée au parquet de Kinshasa. Nous n'avons pas la suite. Ni la famille de David, ni la coalition, ni ses collègues étudiants n'ont pas de ces nouvelles. Et nous exigeons de M. Kabila de tout mettre en œuvre et le plus rapidement possible pour que David soit relâché très rapidement.
Emery Damien Kalwira, joint à Paris par Gabi Dorsil.
Trois personnes, un gendarme, un mutin et un civil, ont été tués et quatre blessés par balle hier lors d'une mutinerie à la maison d'arrêt de Brazzaville, capitale du Congo, a annoncé le procureur de la République André Ngakala Oko. Selon lui, des détenus se sont emparés de quelques armes des gardiens et se sont mis à tirer dans tous les sens, provoquant ainsi un climat de panique à la maison d'arrêt et ses environs. Les affrontements ont duré environ 30 minutes, selon des témoins interrogés par l'AFP.
Le premier ministre français Bernard Cazeneuve a averti jeudi qu'il fallait se préparer à une guerre longue contre le terrorisme et assurer le Tchad, allié majeur dans ce combat fragilisé par une grave crise économique, du soutien financier de la France. Les détails, Tatiana Mosso.
Il faudra amplifier l'effort, a dit Bernard Cazeneuve, car nous devons nous préparer à une guerre longue dans un environnement stratégique profondément modifié. Le Premier ministre a souligné le devoir de solidarité français à l'égard des Tchadiens. La France aidera toujours le Tchad à surmonter les difficultés à l'issue d'un entretien avec le président Idriss Déby Itno. Ce pays, allié stratégique de l'Occident à la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, est en première ligne dans la lutte contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et contre les djihadistes au Mali. Mais il se débat aussi dans une crise profonde qui secoue le régime autoritaire d'Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990 et réélu en avril pour un cinquième mandat à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition. La France a accordé une aide budgétaire de 5 millions d'euros au Tchad en 2016, qui sera reconduite en 2017, ainsi qu'un soutien humanitaire d'urgence de 3 millions d'euros cette année. Paris plaide par ailleurs activement pour que l'UE décaisse les 50 millions d'euros promis à la force multinationale mixte opérant contre Boko Haram dans la région du lac Tchad et composée de 8500 hommes originaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun.
L'insaisissable chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a diffusé hier une nouvelle vidéo dans laquelle il conteste les affirmations du gouvernement nigérian selon lesquelles le groupe djihadiste a été chassé de la forêt de Sambisa, un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. L'armée a réagi dans la soirée dans un communiqué qualifiant cette vidéo de simple propagande. Sekao était apparu pour la dernière fois dans une vidéo fin septembre où il affirmait être en parfaite santé alors que l'armée avait affirmé l'avoir grièvement blessé dans des combats.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité Adama Barrow pour sa victoire à l'élection présidentielle en Gambie et lui a demandé de calmer ses partisans. C'est ce qu'a indiqué hier l'ONU. Ban Ki-moon a téléphoné jeudi à M. Barrow, dont l'élection est contestée par le président sortant Yahya Jammeh, et a confirmé que les Nations Unies soutiennent pleinement la décision de la CEDEAO du 17 décembre. Elle a demandé à M. Jammeh de reconnaître sa défaite et décidé que M. Barrow serait investi normalement le 19 janvier.
Retour hier à Bamako de 159 Maliens rapatriés de Libye en provenance de Tripoli. Parmi eux, 32 femmes, 3 enfants non accompagnés, 3 malades, dont un blessé par balle. Compte rendu de Kassim Traoré.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Berkay sains et saufs, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout j'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Oui, ce soir ici chez moi, ici à Bamako, et dit Dieu merci.
Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement dès quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako à 18h, je pense à ceux qui sont là-bas. Moi aujourd'hui je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, c'est seulement dit, je pense beaucoup à eux.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les États-Unis ont ouvert une enquête sur une transaction financière au Mozambique ayant servi à acheter des armes et impliquant 3 grandes banques, dont Crédit Suisse et BNP Paribas. Les précisions, John Lydon.
La SEC, le gendarme de la bourse américaine, s'intéresse à un emprunt obligatoire de 850 millions arrangé en 2013 par Crédit Suisse et la banque russe VTB Group pour le compte d'une entreprise publique mozambicaine, a précisé une source sous couvert d'anonymat. BNP Paribas n'a pour sa part distribué que les titres de créances aux investisseurs, pour la plupart des fonds d'investissement américains, a ajouté la source. Cet argent devait servir initialement à acheter 30 embarcations de pêche et de protection maritime, mais il a été utilisé pour acheter des armes, une information déjà révélée par le Wall Street Journal. Aucune demande d'information n'a encore été adressée aux 3 banques, selon une source proche du dossier. La SEC a en revanche adressé une lettre aux fonds créanciers, leur demandant de lui faire parvenir des documents et échanges avec les 3 banques sur l'opération. Cette enquête, qui ne vise pas directement les 3 établissements pour l'instant, est un nouveau rebondissement dans ce qui a été baptisé le scandale des dettes cachées secouant le Mozambique, un des pays les plus pauvres du monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a annoncé hier une série de mesures contre la Russie après son ingérence dans l'élection présidentielle américaine, déclarant notamment personae non grata 35 membres des services de renseignement russes présents aux États-Unis. Salwa Jafari.
Des sanctions en réponse à des efforts russes en vue de nuire aux intérêts américains, a expliqué Barack Obama, indiquant que le gouvernement fournira un rapport au Congrès dans les prochains jours sur les efforts de Moscou pour interférer dans les élections présidentielles. Les sanctions ne s'arrêteront pas là, a précisé le président américain dans un communiqué prévenant que les États-Unis prendront d'autres mesures au moment qu'ils choisiront, y compris des opérations qui ne seront pas révélées au public. Dans sa déclaration, Barack Obama invite les pays amis et alliés des États-Unis à travailler ensemble pour contrer les efforts de la Russie visant à saper les bonnes pratiques internationales et à s'ingérer dans le processus démocratique. Barack Obama avait promis des représailles contre la Russie Russie après les piratages informatiques qui ont perturbé le match électoral entre Donald Trump et Hillary Clinton. Washington accuse notamment des pirates informatiques russes d'avoir dérobé des dizaines de milliers d'emails de responsables démocrates.
La Russie qualifie d'infondées les accusations américaines.
En Syrie, un cessez-le-feu entre le régime et les rebelles était globalement respecté ce matin. Dans le pays, en proie à une guerre civile, depuis près de 6 ans, seuls quelques accrochages isolés étant signalés.
La Minute Éco, Salwa Jafari.
L'industrie du cacao est au plus mal en Côte d'Ivoire, selon Bloomberg. Les fèves s'accumulent dans les ports et les entrepôts du pays, premier producteur mondial, suite à une chute des prix qui a incité certains exportateurs à suspendre leurs transactions. La Côte d'Ivoire exporte environ 80% de sa production émanant de 2 récoltes annuelles. Les fèves s'accumulent également dans les fermes où les producteurs se voient proposer des prix inférieurs entre 900 et 950 francs CFA le kilogramme. Alors que la situation politique, économique et sécuritaire en Libye est toujours instable, l'Union européenne et la France ont lancé le premier projet d'appui à la reprise économique dans le pays. Le projet de 7,6 millions d'euros sera piloté depuis Tunis par l'Agence de coopération technique internationale Expertise France. Il vise à diversifier l'économie libyenne et à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. D'après les données collectées par le Centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale camerounaise, plus de 70% des entreprises créées entre 2010 et 2015 n'ont pas survécu au mois de mai 2016. L'absence d'assistance, la peur, la recherche du gain facile ou encore le mauvais encadrement des jeunes entrepreneurs sont cités dans ce rapport comme facteurs expliquant que près des 2/3 des 40 500 entreprises créées au Cameroun depuis 2010 ne sont pas parvenus à pérenniser leur activité.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Football Tevez, mieux payé que Cristiano Ronaldo et Messi.
Son transfert au club chinois de Shanghai Shenhua ferait de Tevez le joueur le mieux rétribué de l'histoire du foot en revenus salariaux. Il gagnerait environ 38 millions d'euros par saison. Il devance désormais son compatriote Lionel Messi et le portugais Cristiano Ronaldo, les deux joueurs qui se sont partagés les 9 dernières éditions du Ballon d'Or. La Chine veut se transformer en une superpuissance footballistique à l'horizon 2050. Et en 2016, les clubs de la Super League chinoise ont dépensé plus de 400 millions d'euros pour l'achat de joueurs.
Mais le milieu de terrain turc des FC Barcelone, Arda Turan, résiste aux sirènes chinoises.
Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan sont prêts à débloquer des sommes astronomiques. Mais Turan traîne les pieds pour l'instant. Il a fait une saison remarquée au point qu'il apparaissait déjà comme le 4e attaquant après le trident formé par Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez.
En revanche, Fernando Cavenaghi prend sa retraite.
Une retraite contre son gré Idrissa, car l'Argentin et ancien attaquant de Bordeaux, champion de France en 2009, n'a reçu aucune proposition, a-t-il annoncé dans le quotidien sportif de l'équipe de jeudi.
Et en tennis, Eric, l'on parle du retour gagnant de l'Espagnol Rafael Nadal à Abu Dhabi.
L'ancien numéro 1 mondial, retombé au 9e rang, a retrouvé la compétition par une victoire nette 6-0, 6-4 face au Tchèque Tomáš Berdych, numéro 10. C'était hier au tournoi exhibition d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Rafael Nadal retrouve ainsi des sensations à plus de 2 semaines de l'Open d'Australie entre le 16 et 29 janvier. Des douleurs persistantes au poignet gauche l'avaient contraint à écourter sa saison 2016. Et avec toi, Idrissa, les résultats de la NBA de ce jeudi soir.
Miami-Charlotte, 82-91. Oklahoma City-Memphis, 80-114. Boston-Cleveland, 118-124. Philadelphia-Utah, 83-100. Toronto-Phoenix, 91-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la CENCO prévoit pour aujourd'hui, vendredi, la clôture des travaux au dialogue de la dernière chance tenu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Une délégation des évêques devait rencontrer hier dans la soirée le président Joseph Kabila avant d'échanger ensuite avec Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement, sur les derniers détails de l'accord. De Kinshasa, Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire, a résumé pour nous hier soir ce qui a transpiré de la journée de jeudi.
À les entendre parler, toutes les parties restent optimistes quant à la clôture des travaux ce vendredi, même si certaines questions restent pendantes. Félix Tshisekedi est chef des délégations du Rassemblement.
Je dis les questions qui sont encore pendantes. Donc il y a des questions à régler et dont les détails sont importants. Donc il faut qu'on se mette bien d'accord. Mais je crois, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vais le faire quand même cette fois-ci. Je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur demain. Demain, je crois que ce sera à partir de 15h, sauf imprévu. 15h, demain ici, je crois que ça se terminera bien. Je vous ai dit qu'il y a des détails de questions dont on attend la réponse de l'autre côté. Et je crois qu'avant demain 15h, je pourrai répondre à votre question.
Du côté signataire de l'accord de l'Union africaine, on croit enregistrer des avancées significatives pour atterrir à un accord. Vital Kamerhe.
Moi, j'appartiens à la race des optimistes. Demain ou après-demain, l'essentiel est que nous ayons un accord. Et je peux vous dire, sauf si le diable entre dans nos cœurs en dernière minute, j'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté du Rassemblement, du côté de l'opposition qui était au dialogue, de la majorité, de la société civile, j'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seule la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Nous ne sommes plus dans des postures où chacun veut être ceci ou cela, où chacun veut gagner contre l'autre camp. C'est cet esprit-là qu'il fallait imprégner à tout le monde dès le départ. Et quand on part sur cette base-là, on construit des choses durables.
À la CENCO, les décors semblent plantés avant les derniers réglages. Pour le secrétaire général adjoint de la CENCO, les évêques clôturent ce vendredi. Abbé Donatien Cholet.
À 10h, ça sera le 8-8 là, et puis au début de l'après-midi, la plénière va adopter, nous espérons, et puis pour clôturer, nous espérons encore à 15h, mais tout dépend des politiciens qui doivent trancher.
Non, aujourd'hui, il n'y a rien.
Aujourd'hui, nous avons une séance de travail avec un groupe de rassemblement, et puis les évêques vont être reçus par le chef de l'État cet après-midi, donc il faut attendre ça pour être sûr de la suite. Les évêques clôturent demain.
On parle de divergences, ça persiste toujours?
On est en train de travailler justement. Donc si on ne s'est pas réuni aujourd'hui, c'est pour qu'on finalise ces discussions. En tout cas pour les évêques, on termine demain.
Pour la journée de jeudi, les évêques qui avaient une séance de travail avec un groupe de rassemblement devaient juste après aller rencontrer le chef de l'État sur certainement les quelques divergences qui restent à aplanir. Depuis Kinshasa, Gino Reema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a assuré hier à N'Djamena du soutien de la France au Tchad face à la crise économique et sociale qu'il traverse, en soulignant l'importance de ce pays dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. John Lyndon a joint au Tchad le professeur Ahmad Mahamad Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
C'est une visite importante pour le Tchad qui est en première ligne de la lutte contre le terrorisme et notamment la question de Boko Haram et les djihadistes dans la sous-région sahélienne. Et c'est la première fois que le Premier ministre sort de la France depuis sa nomination et la priorité sécuritaire du quinquennat du président Hollande est consacrée à cette visite. Et le partenaire en première ligne en Afrique, bien entendu, c'est le Tchad du président Déby qui a déployé beaucoup de efforts militaires, financiers et matériels dans cette lutte-là et c'est une reconnaissance des efforts du Tchad.
Comment jugez-vous d'ailleurs sur le terrain ces efforts du Tchad?
Le Tchad, c'est depuis 2012 qu'il est impliqué dans au Mali avec les djihadistes et également la question de Boko Haram dans la région du Tchad. Le Tchad est malheureusement le premier, le plus grand contributeurs dans cette lutte-là en hommes et en matériel, et ils supportent la plupart du budget de cette lutte sécuritaire sur ses propres ressources qui de plus en plus deviennent rétrécies. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est remarquable. Le Tchad souhaite toujours le soutien de la communauté internationale, même s'il y a une prise en charge partielle au niveau des éléments tchadiens à Kidal et à Gao.
Cette lutte contre Boko Haram intervient aussi dans un contexte économique difficile pour la plupart des pays, y compris pour le Tchad. Comment voyez-vous l'issue?
Bon, écoutez, l'issue de cette lutte, le Tchad ne peut pas supporter le budget de la lutte sécuritaire pour toute la communauté internationale de la sécurité humaine, et notamment précisément dans la sous-région, avec la question de l'islamisme qui s'annonce déjà en Libye, et puis continuer à maintenir les djihadistes qui dans le désert du Mali et du Niger, mais qui n'ont pas totalement disparu, mais également Boko Haram, malgré les grandes victoires acquises, qui confirme avec la dernière sortie de Aboubakar Shaou, qui dit qu'il est toujours présent, il dément même le succès des derniers temps de l'occupation de Samoussa. Alors, le Tchad ne peut pas longtemps supporter parce qu'il a ses propres problèmes sociaux. Vous voyez très bien que les mouvements sociaux sont là, les questions des salaires des fonctionnaires, la question du fonctionnement de l'État, et le Tchad est dans presque une récession. Avec la chute des prix du pétrole, le Tchad vit une situation un peu difficile et il ne peut pas à lui seul continuer à supporter cette charge budgétaire, financière et matérielle.
Qu'est-ce que le Tchad peut attendre de la France?
La France vient d'annoncer par l'intermédiaire du Premier ministre français en N'Djamena qu'il y a une augmentation de 3,5 milliards d'euros sur le budget du ministère de la Défense en matière de recrutement des hommes, mais également du matériel. Mais cette augmentation doit se répercuter seulement dans l'armée française et ses contingents en Afrique et ailleurs. Mais il faut absolument que la France s'y prononce concrètement pour l'aide directe au Tchad en matière de soutien dans sa lutte pour la sécurité. Et ça, je n'ai pas écouté, malheureusement.
Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le Niger a annoncé cette semaine un programme d'amnistie aux combattants de Boko Haram qui déposeraient les armes. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, après qu'une trentaine d'ex-combattants de la secte nigériane de nationalité nigérienne ont annoncé qu'ils abandonnaient le mouvement djihadiste. Des programmes similaires existent déjà dans des pays comme l'Algérie ou la Mauritanie, mais sont-ils vraiment efficaces? Au micro d'Abdourahmane Dia, la réponse du journaliste mauritanien Moussa Sambassi, spécialiste du terrorisme.
Écoutez, c'est une approche en vue de la résolution de ce problème de l'extrémisme combattant qui a démarré d'abord en Algérie, qui a fait un programme similaire, qui a été le premier pays à mettre en place un tel programme, c'est-à-dire coupler une action militaire énergique avec une ouverture vers ceux qui n'ont pas, en tout cas, des mains attachées par du sang, pour qu'ils puissent se réintégrer dans la vie de tous les jours. En Mauritanie aussi, la même approche a été entamée par le gouvernement, qui a organisé une sorte de programme à double voie, une voie militaire, c'est-à-dire le renforcement des capacités militaires du pays, mais en même temps, essayer de rapprocher les éléments qu'on appelle ici, entre guillemets, égarés, en fonction d'un programme de réinsertion, de prêts financiers, de financement de petits projets, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce qu'en fait, l'analyse est faite que la plupart des jeunes qui sont recrutés par ces mouvements extrémistes ne sont pas des éléments, on va dire, convaincus. Mais simplement, c'est d'exister le chômage qui les pousse dans les bras des recruteurs des mouvements islamistes.
Et pour le cas de la Mauritanie, est-ce que c'est un programme qui marche bien, selon vous?
Sur à peu près la cinquantaine d'individus qui ont été concernés par ce programme, je crois qu'on a pu signaler qu'un seul cas de récidive, c'est-à-dire un seul jeune qui a peut-être rejoint les rangs des combattants islamistes. Mais les autres mènent une vie normale au milieu des autres. Enfin, chacun d'eux a engagé une activité et apparemment c'est tombé la voie des armes pour régler ces problèmes-là.
Justement, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un ancien extrémiste qui cherche à réintégrer la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un programme de surveillance de ces personnes-là?
Oui, il y a forcément un risque important que ces jeunes profitent simplement de l'amnistie offerte pour aller rejoindre les combattants. D'ailleurs, il y a eu des cas comme ça aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie. Comme je vous ai dit, au moins un cas qui a été signalé.
Mais ce risque, la plupart des gouvernements préfèrent le courir plutôt que de rester les bras croisés sans aucune approche. Et je pense que le Niger aussi s'engage sur cette voie parce qu'en fait, on essaie, en mettant la pression sur Boko Haram, la pression militaire, mais en même temps, essayer de tarir les sources de recrutement du mouvement. Mais le seul moyen de tarir les sources, c'est d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes qui seraient appelés à les rejoindre.
Le journaliste mauritanien Moussa Sambassi joint à Nouakchott.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le président Barack Obama a mis à exécution sa menace contre la Russie en prenant diverses mesures de rétorsion, dont l'expulsion de 35 agents de renseignement russes identifiés aux États-Unis. Ces sanctions font suite aux accusations des services de renseignement américains selon lesquelles des pirates russes ont tenté, sous la direction du Kremlin, d'influer sur la dernière présidentielle américaine par des attaques informatiques ayant ciblé le Parti démocrate. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Souleyman Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
On se demandait quelle forme la réponse des États-Unis allait prendre, mais il était certain que le président Barack Obama, après avoir annoncé qu'il y aurait une réponse, était obligé de réagir. On se demandait quelle forme cette réaction allait prendre. Et je crois que cette forme-ci, qui est pour l'essentiel une forme diplomatique, puisque beaucoup de diplomates ou d'agents de renseignement russes ont été renvoyés chez eux, ont été déclarés persona non grata. Je crois que c'était la réponse qu'il fallait attendre.
Mais quelle est la portée de cette réponse?
Une mesure comme celle-là, qui consiste à renvoyer des diplomates et des personnalités qui ne sont pas tellement des diplomates, mais du monde des renseignements, ce nombre-là me semble assez important pour qu'on considère que c'est là une réponse qui correspond véritablement à l'ampleur de la cyberattaque qui a été menée essentiellement contre le Parti démocratique. Il me semble qu'il faut mettre ça en relation également avec le fait que dans quelques jours maintenant, le nouveau président Trump va avoir à s'occuper des conséquences de cette réponse. Or, on le sait, le président Trump a manifesté, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de scepticisme d'abord devant l'accusation de la Russie et deuxièmement devant les sanctions à prendre. Il a encore dit hier soir, je crois, qu'il ne fallait peut-être pas réagir. Donc la portée se mesure également dans ces termes-là, c'est-à-dire que c'est la place du président à venir, Trump, devant ses responsabilités.
Dans le cas de M. Trump, on accuse l'administration Obama de créer des obstacles pour la prochaine administration. Est-ce que ces sanctions ne leur donnent pas raison quelque part?
Il faut quand même tenir compte du fait que le Parti républicain lui-même a quand même salué la réponse. Et par conséquent, ce n'est pas la même chose que les relations diplomatiques, par exemple, avec Israël. Là, dans le cas d'espèce, je crois que tout le monde convient, y compris les services de renseignement. Tous les services de renseignement américains étaient d'accord pour dire que la Russie était derrière les cyberattaques. Par conséquent, l'équipe du président entrant aura beaucoup de mal à présenter ça simplement comme une manière pour l'administration sortante de leur créer des difficultés.
La Russie a bien entendu condamné ces nouvelles sanctions américaines. À quelle autre réaction faut-il s'attendre de la part des Russes?
C'est ça la grande inconnue, me semble-t-il. Je pense que en la matière, avec la nouvelle administration, probablement, il sera plus facile de sauver la face et de procéder à une certaine désescalade. Donc je ne pense pas, quant à moi, que les Russes réagissent avant de voir arriver la nouvelle administration.
Le professeur Souleyman Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Michel Joseph pour la mise en onde et Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.